Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Bonjour, bienvenue, nouvelle édition de l'heure du crime en direct des studios de la rue Bayard. Nous sommes en compagnie de Justine Vigneault, de Laure Broulard et c'est Sébastien Rocheron qui est à la technique de l'heure du crime aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va vous prouver vraiment pièce à conviction à l'appui que effectivement l'art peut pousser au crime parfois. Alors il y a une raison évidemment puisqu'on va vous parler que d'histoires les héros malheureux ou les héroïnes malheureuses sont des œuvres, des sculptures, des tableaux parmi les plus connus à travers le monde et qui ont un jour évidemment intéressé un malfrat ou une bande de gangsters alléchés évidemment par les sommes considérables que valent ces œuvres d'art. Après, c'est une autre paire de manches, évidemment, de les monnayer. Mais ça, on va en parler avec mon invité, Karine Muller. Bonjour.
Okay.
Et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. On se connaît déjà, on va le dire à ceux qui nous écoutent.
Absolument.
Parce que vous êtes en état de récidive, si
oui,
j'ose dire.
Exactement. Hein, je récidive sur RTL.
Vous publiez là ces jours-ci aux éditions Prisma. Mm. Quand l'art est pris pour cible, bon, c'est clair, hein, vous racontez des histoires improbables, comme vous dites, mais vraies.
Sans une,
très exactement. Et il y a 2 ans, c'est pour ça que je dis que vous êtes en état de récidive, il y a 2 ans, c'était vu pour une émission spéciale à Lens, au Louvre de Lens.
Ouais.
Et je peux pas m'empêcher de vous demander qu'est-ce qui s'est passé après l'émission, s'il vous plaît.
Oh, bah écoutez, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. C'est que, alors vous, en dehors du micro, vous avez dit au responsable de la sécurité que vous espériez qu'il ne se passerait jamais rien au Louvre de Lens qui puisse permettre que j'écrive une histoire. Et un mois plus tard, oui, il y avait une femme qui a tagué la liberté guidant le peuple de Delacroix.
Voilà. Et c'était avec un gros feutre.
Avec un gros feutre, avec elle a mis une inscription sibylline que personne n'a jamais pu vraiment comprendre. Ouais. Et en fait, c'était une femme
qui
avait des gros problèmes psychiatriques.
Ouais.
Et dès que c'est paru dès qu'on en a parlé à la radio ou à la télévision, oui, j'ai eu une avalanche de mails et de SMS qui m'ont dit « Tu vas retourner chez Jacques Pradel
bon. ». Alors, et voilà. Aujourd'hui, là, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de gars, il n'y a pas de Dufy dans les studios d'RTL, en tout cas pas à l'étage
oui, tout le monde a
où
l'air
nous faisons
sympa
ces émissions. Voilà. J'espère qu'on ne va pas donner de mauvaises idées à certains qui nous écoutent. Je voudrais simplement dire de vous, avant qu'on entre dans le vif du sujet, Karine Muller, que vous êtes galériste, vous êtes spécialiste de l'art. Bon, vous écrivez ces livres, mais également des articles beaucoup plus sérieux, si j'ose dire, sur l'art contemporain.
Oui.
Vous co-dirigez la galerie Guimpel-Muller, hein, célèbre galerie qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés.
Exactement, rue Guénégaud.
Alors, donc, je renvoie, je sais pas, j'ai pas noté la page où vous racontez l'histoire du Louvre-Lens, là, mais c'est dans le livre dont on va parler. Je voudrais juste encore dire, à propos du sommaire de cette émission tout à l'heure, on entendra un reportage et une interview réalisée par Laure Broulard, qui est allée au musée Picasso, rencontrer Olivier Picasso, donc le petit-fils de Picasso. C'est là qu'on a appris qu'il y aurait 400 œuvres de Picasso en cavale à travers le monde. Et évidemment, Laure a voulu en savoir un peu plus sur la sécurité. Et je rassure tout le monde tout de suite, vous entendrez Olivier Picasso tout à l'heure. Vraiment, ils ont mis le paquet. Ça va être très, très difficile. De la même façon que vous savez, on dit avec l'ADN que le crime parfait est de plus en plus difficile à faire. Mais là, avec ce qu'ils ont prévu au musée Picasso, ça va être très dur. Puisqu'on parle de Picasso, dans votre livre, vous racontez, on va pas partir avec des histoires de gangsters, ça va venir, hein, dans un instant, on va parler des grands casses, peut-être le plus grand casse d'ailleurs de toute l'histoire des Pays-Bas, un casse en Norvège également. Mais vous racontez évidemment des histoires... Alors, qui ne peuvent faire sourire que ceux qui n'ont pas été les héros de l'histoire.
Oui.
Je pense à une femme qui va à Las Vegas. Elle va dans un hôtel qui appartient à un grand casinotier de Las Vegas. Et cet homme est ravi qu'elle soit là. Il l'invite et il veut lui montrer absolument un Picasso qu'il s'apprête à vendre.
Exactement. Et c'est une toile donc qui s'appelle Le Rêve, et il est très content parce qu'il a tout un aéropage de personnalités qui suivent cette femme, qui est vraiment quelqu'un de très important à Las Vegas dans le monde des médias. Et c'est une toile très érotique de Picasso, et c'est Marie-Thérèse Walter, oui, dont il était amoureux fou, mmh, et qui est représentée en dormant, mais il y a quand même un gros phallus à, ouais, côté.
Oui, elle est un peu coupée en deux.
Voilà.
Voilà.
Et alors, certainement, oui, très, très excité par ce qu'il raconte, il a des grands gestes, et alors tout le monde regarde un petit peu effaré, parce que tout le monde voit la main qui se rapproche du tableau, oui, et tout à coup, paf, le bras tombe sur le tableau, et il y a une belle déchirure.
Oui, un coup de coude. Et il venait juste de dire qu'il était en train de vendre pour,
exactement,
135 millions de dollars cette œuvre.
Pharaonique.
Ouais. Donc c'est fini, là.
Voilà, c'est fini. Ouais. Et alors, il dit, bah, heureusement que c'est moi qui l'ai fait, parce que sinon ça aurait fait quand même toute une affaire d'État. Oui. Et bon, finalement, la toile a été restaurée et de façon incroyable a encore battu les records qui, oui, à l'époque étaient le portrait d'Adèle Bloch.
Oui. C'est
et donc
la même,
voilà,
somme, hein.
C'est des sommes pharaoniques.
J'ai noté, voilà, hein, quand même au passage 155 millions de dollars.
Voilà.
Somme considérable. À propos de Picasso a l'air d'attirer beaucoup, oui, les malheurs, oui, si j'ose dire. Mais enfin bon, je touche du bois pour le musée Picasso, mais ça c'est à New York, c'est une autre histoire que vous racontez au passage.
Avec l'acteur.
L'acteur qui est un tableau célèbre, évidemment,
oui,
hein,
de
Picasso.
Oui, un tableau de la période bleue, et c'est un tableau qui représente donc un acteur, mmh, qui a un geste de la main qui semble dire « viens vers moi ». Oui. Et il y a une jeune étudiante qui est devant, oui, et qui probablement complètement fascinée par, oui, par ce geste, se penche.
Et elle s'évanouit, hein,
pour dire. Elle s'évanouit, ouais, à moitié, ouais, dans le tableau, et pareil, le tableau est abîmé.
Voilà.
Donc, et là, c'est alors évidemment, la pauvre fille est complètement catastrophée, parce qu'étant donné la valeur du tableau, ouais, mais pareil, le tableau a été restauré, donc ce sont des...
Ouais.
Et finalement, après, ce sont des tableaux qui ont des histoires.
Et oui, bien. Alors, ça intéresse, évidemment, après, les collectionneurs,
oui,
mais enfin, à ce niveau de prix,
oui,
ils,
oui,
se
vrai,
comptent vraiment sur les doigts d'une main. Par contre, il y a aussi, parfois... la bêtise,
ah oui,
mais la bêtise humaine la plus crasse qui a pour conséquence que une œuvre d'art magnifique va finir en fumée, en cendres. C'est,
hélas,
ce qui s'est passé. Alors certains s'en souviennent encore peut-être, parmi ceux qui nous écoutent, il y avait au Grand Palais une grande exposition Georges
Seurat.
Oui. J'ai oublié l'année d'ailleurs, mais enfin c'est dans la période...
C'était en 91.
En 91,
voilà.
Bon. Et évidemment, il va y avoir un vernissage,
ouais,
au Grand Palais, il y a des centaines d'invités prestigieux. On a fait appel à un traiteur,
ouais,
et là, il y a un employé, mmh, qui va s'en aller.
Voilà. Qui va...
Discrètement, avec sous le bras un dessin de Georges Seurat.
Ben oui, et puis, on va voir un employé qui part comme ça dans les salles, et personne ne se préoccupe, parce que tout le monde avec les petits fours et avec les verres de champagne. Et le lendemain, un gardien arrive et s'aperçoit qu'il y a un petit dessin de Seurat qui a disparu.
Le fiacre, hein, je crois.
Le fiacre, le cocher.
Le cocher.
Voilà, le cocher et son fiacre.
Ouais, ouais.
Et ce tableau appartenait à une galerie, à la galerie Berès, qui est une très importante galerie de Paris. Et là, ça a été la consternation totale. Évidemment, la galerie s'est dit, mais de toute façon, le tableau est invendable.
Ouais, donc on le retrouvera.
On le retrouvera un jour ou l'autre. Sauf que ce garçon, qui n'était pas du tout un professionnel du vol, mm-hmm, s'est dit, bon, bah, moi, je vais contacter, ouais, le milieu.
Oui.
Parce qu'il était quand même suffisamment, ouais, intelligent pour se douter, ouais, qu'il n'allait pas le mettre aux enchères.
Oui, bien sûr.
Et
ça s'est très mal passé.
Et ben ça s'est très très mal passé, parce, ouais, qu'il a eu une rencontre avec des malfrats, et ben les malfrats l'ont tout simplement tabassé.
Ouais.
Mais il est rentré donc avec le visage complètement en sang.
Des amateurs de Georges Seurat.
Voilà. Sa compagne, complètement paniquée, s'est dit, oulala, mais ce tableau nous porte la poisse.
Ouais.
Je ne vais pas le rendre au Grand Palais parce que je vais me faire arrêter, je vais aller en prison. Et ben qu'a-t-elle fait? Elle l'a détruit. Elle l'a brûlé. Elle a mis le tableau dans l'évier et elle l'a brûlé.
Voilà.
Donc ce dessin de Georges Seurat est perdu,
cendres,
pour tout le monde.
Les cendres,
voilà,
sont parties dans l'évier.
Chères cendres qui sont parties dans les...
Voilà. Ça fait partie des histoires, évidemment,
voilà,
qu'on se raconte,
ouais,
dans les milieux de l'art. Mmh. On va faire une première pause et dans un instant, on va parler de ce grand casse de l'histoire des Pays-Bas, peut-être le plus grand, qui s'est déroulé en 2012 et c'est à Rotterdam. Et Et puis ensuite, vous nous raconterez plus en détail l'histoire d'un casse en Norvège, aussi dans la période contemporaine, en 1994. Là, on est dans le pur et dur avec les malfrats et les gangs de voleurs.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Quand l'art est pris pour cible, c'est le titre du livre de mon invité, Karine Muller, connaît très bien évidemment l'histoire de l'art, qui s'intéresse aussi à ces faits divers, parfois dramatiques, qui tournent autour de ces œuvres d'art volées, abîmées, disparues souvent. Quand l'art est pris pour cible, c'est le titre donc de son livre qui vient de paraître aux éditions Prisma. Alors, j'évoquais il y a un instant, Karine Muller, peut-être ce qui est le plus grand cas de l'histoire des Pays-Bas, ça se termine très mal pour les œuvres d'art, vous allez nous le dire dans un instant, mais d'abord, on va écouter un document RTL. Alors, les faits, d'abord, ça se passe dans la nuit du 16 au 17 octobre 2012, et cette nuit-là, un Picasso, un Matisse, un Monet et un Gauguin disparaissent d'un grand musée de Rotterdam, le musée Kunsthal, qui fêtait à ce moment-là son 20e anniversaire. C'est à cause de cet anniversaire qu'on a exposé ces tableaux magnifiques. Et qu'est-ce qu'on peut dire du talent, entre guillemets, de ceux qui ont volé ces tableaux? Un travail de pro, c'était en tout cas ce qu'expliquait ce jour-là sur RTL Béatrice Adjadj.
Celui ou ceux qui ont commis ce vol sont des pros à n'en pas douter. La police, alertée vers 3h ce matin par l'alarme, est arrivée trop tard, il n'y avait plus personne. Et en dépit des images vidéo enregistrées à l'intérieur, nous n'avons aucun détail sur la façon dont le ou les voleurs ont réussi à s'échapper de ce musée contemporain qui accueillait ces 7 toiles de la collection Triton. Alors depuis 91, c'est le 9e grand vol de tableaux dans un musée. Le dernier en date à Paris a eu lieu au musée d'art moderne en 2010, où déjà des toiles de Picasso et Matisse ont été dérobées sans être retrouvé. Alors, qui a volé la tête d'Arlequin de Picasso, la liseuse en blanc et jaune de Matisse et les Gauguin et Monet? Et pourquoi? Pour toucher la prime d'assurance d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Sur l'ensemble des vols de peinture, très peu de toiles, en fait, sont retrouvées. La Joconde, volée au Louvre en 1911, en fait, a réapparu 2 ans plus tard, mais ça reste une exception.
Alors là, le butin était estimé à 200 millions d'euros. Karine Muller, il y a une enquête. C'est un gang de Roumains.
Exactement, c'est un gang de Roumains qui a été trouvé en fait assez rapidement. Mais ce qui est absolument dramatique, c'est que la mère du chef de gang. A soudain eu très peur pour son fils et il semblerait qu'elle ait brûlé les tableaux. Et malheureusement, ce n'est pas encore complètement sûr, mais il y a très peu de chances de les retrouver parce que les experts ont retrouvé dans les cendres des pigments. Donc c'est absolument catastrophique.
Ça, c'est la police scientifique qui a permis de s'imaginer.
Exactement. Je pense qu'on n'aura jamais on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, mais je pense que les spécialistes maintenant ont perdu tout espoir de retrouver les toiles. Ouais. Et ça, c'est exactement comme pour le Sora, c'est la panique. Ouais. Et dans des situations de stress, malheureusement, les réactions sont imprévisibles. Et c'est absolument dramatique parce qu'en plus, il y a un Lucien Freud. Ouais. Donc il y a vraiment, c'est un butin absolument, exceptionnel.
Alors, il faut dire que, comme il n'y a pas de preuves, on n'a jamais retrouvé les tableaux. Ouais. Donc, évidemment, ils ont plaidé non coupables, etc. Et le chef de gang dont vous parliez, là, Radu Dogaro, ouais, le cerveau du gang, si on peut dire, a pris 6 ans et 8 mois de prison, qui semble très peu sévère.
C'est rien, mais il n'y a pas vraiment de preuves. Ouais. On ne sait pas exactement qui est derrière, si c'est la mafia roumaine. Enfin, l'enquête est en cours. Mais malheureusement, je crains que pour les œuvres, ce soit fini.
Ouais. Juste un mot, parce qu'on en a parlé juste avant de commencer l'émission hors micro. Je vous disais, mais quand même, le collectionneur fou, celui qui veut avoir chez lui une œuvre volée, qui va demander à un gang d'aller le voler, ça n'existe pas. Tous les policiers le disent. Vous dites si.
Ah oui, ça existe. Oui. Là, je suis absolument formelle. Il y a des tableaux qui sont chez des collectionneurs et qu'on retrouve après, lorsque les collectionneurs décèdent, et que les héritiers les mettent en vente ne sachant pas de la provenance.
Oui,
mais si, il y a vraiment des collectionneurs faux. Je ne pense pas qu'il y en ait en France, mais il y en a en Russie, il y en a dans les pays asiatiques. Ah oui, si, il y a des collectionneurs fous.
Bon, hélas. Il faudra essayer.
Mais d'un autre côté, si ce sont des collectionneurs, on peut retrouver les tableaux.
Oui, un jour ou l'autre, au moins, ils ne vont pas les détruire.
Ils ne sont pas détruits.
Alors, je voudrais qu'on dise un mot aussi d'une autre histoire que vous racontez dans votre livre, qui se déroule en 94, en Norvège. Oui. Alors, c'est simple, la date, c'est le 12 février. C'est le jour où toute la Norvège regarde à la télé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Hein. Exactement. Ouais. Et alors, il faut savoir qu'en Norvège...
Les rues sont vides.
Oui, oui. Et en Norvège, comme il ne se passe quand même pas grand-chose. Donc l'ouverture des Jeux Olympiques, mais c'est la Norvège, c'est-à-dire les 4 200 000.
Oui, oui. Personne dans les restos. Personne.
Ils sont tous devant leur poste de télévision et ils écoutent donc le roi Harald qui déclare les Jeux ouverts. Et ceux qui ne sont pas devant leur poste, ils sont sur place. Et donc il y a un gros malin qui s'est dit. C'est le moment ou jamais. Oui. Et en fait, il a tout simplement mis une échelle donc contre la Galerie Nationale.
Oui, et il est monté. Grand musée d'Oslo.
C'est le grand musée qui était ouvert.
C'est le Louvre d'Oslo.
Voilà, c'est le Louvre d'Oslo. Et c'est le musée était ouvert parce qu'il y avait quand même quelques touristes qui n'étaient pas passionnés par les Jeux Olympiques.
Et le gars, il passe par les fenêtres. Et le gars, avec un complice.
Avec un complice. Il casse la vitre. Ouais. Ils ont une cagoule. Hop, ils rentrent. Et en une minute, ils volent la version... Alors pas la version la plus connue du cri, parce que celle-là elle est au musée Munch.
Une œuvre de Munch, oui.
De Munch, d'Edvard Munch, mais la deuxième plus importante version. Ouais. Et puis il sort et il a le culot d'écrire merci
formidable.
Pour la très mauvaise sécurité.
Il laisse un petit mot au gardien. Alors il y a une suite à l'histoire qu'on va raconter dans un instant, mais d'abord un autre document RTL, c'est Laure Broulard qui a trouvé ça dans les archives de la rédaction à propos de ce cas du 12 février 94. Il y avait un témoin, un Français, François Castaud, qui était là en train de regarder les œuvres et ce jour là, Chloé Triomphe, donc, qui était de la rédaction d'RTL, a obtenu par téléphone, faut tendre un peu l'oreille, la communication n'est pas très bonne, mais elle a obtenu un témoignage exclusif donc de ce Français.
Alors ça s'est passé à peu près disons une trentaine de secondes, le temps d'entendre le cri, c'était certainement les voleurs qui rentraient dans le hall et qui couraient jusqu'à la salle Télémunch. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que ces deux tableaux qui sont très emblématiques de l'œuvre de Munch étaient dans la première salle, c'est-à-dire le plus proche de la sortie, sachant qu'il n'y a aucun contrôle de sécurité à l'entrée du musée. Il n'y a d'ailleurs aucun contrôle dans l'ensemble en Norvège, d'un pays où on fait confiance aux gens. Il n'y avait pas d'alarme. Quand les tableaux ont été volés, il n'y a pas eu d'alarme. Et c'est seulement au bout d'une quinzaine de minutes que la police est arrivée pour constater le vol. Alors, autre chose étrange, il est strictement interdit de prendre des photos et de filmer dans le musée. Et par chance, un certain nombre de visiteurs ont fait des photos du hold-up et ont même fait quelques images. On a quand même l'impression que là, il y a des problèmes de sécurité qui étaient indiscutables.
Ça c'est sûr, il a quand même été rattrapé par la police 3 mois plus tard.
Oui, il a été arrêté.
On a retrouvé le tableau.
Oui, on a retrouvé le tableau en bon état.
Et alors, cerise sur le gâteau, il a avoué un autre vol aux policiers.
Oui, il avait déjà volé la Madone. Donc c'est un
le vampire de Munch.
Le vampire.
Oui, quelques années auparavant.
Voilà, exactement.
Mais c'est extraordinaire ça.
Mais Munch en fait attire quand même un certain nombre de passions parce qu'il y a eu un autre vol en 2004 aussi. Donc le cri et la Madone qui ont été volés au musée et qui ont été retrouvés mais en mauvais état malheureusement.
Alors je voudrais dire un dernier mot sur cette histoire. Le monsieur en question, il s'appelle Paul Enger, il avait 27 ans. Il a été condamné etc. Il est condamné quand même à 6 ans de prison, je crois.
Ce qui est beaucoup pour la Norvège.
Et puis après il s'est racheté une conduite et un jour il achète aux enchères, mais c'est un type qui aime l'art aussi. Il achète une œuvre aux enchères, mais il la paye.
Oui, une litho non signée de Munch. Ouais.
Sous les yeux de l'ancien chef de la sécurité du musée d'Oslo, qui lui dit, écoutez, bravo alors quand même, et le gars lui dit, et c'est la moralité de l'histoire.
Exactement, c'est que personne n'est tout le monde est récupérable, donc, et en plus maintenant il est artiste.
Acheter, c'est mieux que voler. Ouais. Voilà. Vous voyez qu'en cherchant bien, on trouve des morales aux histoires qu'on raconte.
Exactement.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Karine Muller, galériste et spécialiste de l'art et qui a une bonne dose d'humour pour raconter dans son dernier livre qui vient de paraître chez Prisma, quand l'art est pris pour cible, 101 histoires improbables mais vraies, d'histoires très fortes. Alors il y a beaucoup évidemment de caisses du siècle, de hold-up, mais vous avez ouvert la porte à toutes ces autres histoires qui nous font sourire, même si elles n'ont pas fait sourire à l'époque les gens. On en racontera d'autres, parce que par exemple, il y a des gens, bon, on avait raconté ça ensemble, cette femme qui avait rajouté un baiser
sur
une toile, là vous racontez l'histoire du monsieur qui a uriné dans l'urinoir de Duchamp.
C'est un spécialiste de ce genre de...
Mais j'ai découvert surtout que ça avait fait chuter la valeur de l'œuvre. Alors ça, c'est extraordinaire. Duchamp serait mort de rire, je pense quand même, non? Parce que le gars, il voit l'urinoir de Duchamp, il fait pipi dedans, et après, ça vaut plus rien. Enfin bon. Alors, on va parler d'un homme qui est une espèce d'icône étrange, parce qu'il fascine, il agace. Il s'appelait Fernand le Gros. C'est certainement l'un des plus grands trafiquants d'art du XXe siècle. Et j'aimerais que vous nous racontiez, tout à l'heure, on aura un document exceptionnel qu'on a trouvé dans les archives. C'est une interview de Fernand le Gros après sa sortie de prison à l'antenne d'RTL. C'est extraordinaire. Mais d'abord, comment on a été amené à parler de ce type? Il avait toujours des grands chapeaux noirs et il fumait des cigares, des bâtons de chaise.
Oui, parce qu'il avait grandi en Égypte. Oui. Donc, c'était quand même quelqu'un déjà d'assez original.
Escroc professionnel.
Ah, c'est un escroc professionnel. Ouais. Absolument. Ouais. Il a toujours gravité dans le milieu de l'art, dans les faux, mais parfois il vendait aussi des vrais. Il a toujours mêlé, en fait, le vrai et le faux. Et en fait, il avait à l'époque un ami qui s'appelait Elmir de Horry, qui était un Hongrois et qui était un très très bon peintre. Et lui faisait faire des copies de tableaux. Oui. Mais à la manière de.
Oui. Mais l'autre les faisait, se prenait pas pour un faussaire.
Pas du tout.
Il aimait recopier les tableaux des autres. Voilà.
Point. Après, Elmir de Horry n'était plus en odeur de sainteté parce qu'il avait rencontré un jeune Canadien qui s'appelle Réal Lessard et qui lui était un surdoué de la peinture. C'est-à-dire qu'on pouvait lui demander n'importe quoi. Ouais. On pouvait lui dire
faites-moi
un Picasso,
un Miro,
un Modigliani, un Soutine.
Ouais.
Mais lui, il faisait ça pour son plaisir et il signait de son nom.
Ouais.
Et alors, à un moment, l'autre s'est dit, tiens, alors là...
Pardonnez-moi, il l'a fait venir des États-Unis, il l'a logé, nourri, blanchi, etc.
Et il lui achetait ses toiles et il lui disait, mais...
C'est pas la peine de signer.
De toute façon, les toiles sont donc, il lui achetait pour une somme tout à fait symbolique. Et après, il faisait signer les toiles par... son autre ami faussaire, Elmir de Horry, qui lui savait parfaitement imiter les signatures. Ouais. Et un jour, il s'est dit, alors je vais faire vraiment un grand coup. C'était les 10 ans de la mort de Dufy, je vais faire une expo Dufy. Donc là, il sort le grand jeu, il loue une des galeries les plus prestigieuses de Paris, il se fait graver des cartes de visite, il prend une secrétaire qui présente très très bien, qui a connu Dufy, et il organise donc une grande exposition. Oui. Il se fait prêter des toiles par les plus grands collectionneurs, dont d'ailleurs Madame Houry, la mère de Gérard.
Donc on ne voit dans cette exposition que des vrais Dufy, on est bien d'accord.
Absolument. Hein, il avait fixé la date du vernissage en fonction de l'expert qui, lui, avait quelque chose à faire à l'étranger.
C'est-à-dire le grand expert. Dufy n'est pas là.
Capacity, oui.
Mais évidemment.
La référence absolue.
Quand il rentre à Paris, ce grand expositeur, j'ai raté l'exposition Dufy. Il y en avait plein les journaux.
Il y en avait plein les journaux. Bon. Et tout le monde disait, c'est l'expo du siècle, les plus beaux Dufy sont là. Et donc tous les prêteurs étaient ravis. Il y avait un avocat qui s'appelait Maître Oer, qui était absolument fou de joie. Le docteur Roudinesco, qui était le médecin traitant, etc. Bon.
Et alors, on va voir comment le piège de Le Gros se met en place. Il appelle l'expert. Oui. Et lui dit, vous avez raté quelque chose. Écoutez, c'est dommage, mais je vais vous inviter à le déjeuner. Il l'emmène, je ne sais pas, chez Maxime,
dans un truc énorme. Étoilé, avec 20 000 lésimés, le grand jeu, l'hôte est complètement conquis.
Oui.
Puis au bout, je ne sais pas, de 2-3 bouteilles de vin, peut-être, il l'emmène à la galerie. Et là, entre-temps, il avait enlevé tous les vrais Dufy et il avait mis uniquement des faux de son ami qu'il avait entre-temps envoyé aux États-Unis. en disant tu vas surveiller un peu la réaction des Américains face à l'exposition, voir ce qu'ils disent dans les journaux.
Comme ça, il est tranquille. Voilà. Il a installé les faux Dufy qu'il a fait signer.
Qu'il a fait signer.
Et comme l'expert est là, alors il lui dit.
Les collectionneurs ont été sympas de me prêter les toiles. Je voudrais faire un petit geste pour eux. Est-ce que vous pouvez faire un petit certificat? Et il avait tout prévu, les photos,
d'authentification.
Et l'autre, après tous ces petits verres de vin, dit mais bien sûr, mon cher ami, je vais vous signer tout ça. Et il signe donc tous les certificats.
Et l'autre, après, il a vendu des sommes considérables, pour des vrais, quoi.
Mais incroyable. Enfin, une histoire un coup monté, qui a réussi parfaitement. Ouais. Seulement, le petit Canadien, quand même, là-bas, s'est dit, mais attends, il m'envoie aux États-Unis, il y a quand même quelque chose qui cloche. Ouais. Et il rentre sans prévenir.
Il s'aperçoit...
Il va chez lui, son appartement de la rue de la Pompe, et bon, apparemment, tout est normal, sauf qu'il voit une pile de papiers. Il regarde, et les papiers, ce sont tous les certificats. Et là, il comprend. Il comprend donc que les toiles qui étaient le soir du vernissage où lui était là ont été enlevées et que sont ses toiles à lui. Il se précipite dans la galerie persuadé que le gros va perdre contenance. Pas du tout. Il lui dit, ah, cher ami, regarde ce que j'ai fait. C'est magnifique. Ce sont tes toiles. Et l'autre dit, mais attends, je deviens un faussaire. Mais non. Tout le monde a le droit de peindre à la manière de. Oui, mais enfin, tout le monde n'a pas le droit de signer. Monsieur, ne t'inquiète pas. Va donc voir d'ailleurs Maître O'Hare qui a prêté. Alors, l'autre se dit, bon, je vais aller voir un avocat qui a une excellente réputation. Il va voir effectivement l'avocat. Et dans la salle d'attente, qu'est-ce qu'il voit? Ses toiles qui sont soi-disant des Picasso.
Chez l'avocat.
Voilà. Et donc là, panique à bâbord. Il dit à l'avocat, écoutez, maître, je suis désolé, mais vous avez une partie de votre collection qui sont des toiles que j'ai faites et qui sont des faux. Et là, donc, vous imaginez ce qui a dû se passer sous le crâne de l'avocat. Et ben, l'avocat a une réaction absolument incroyable. Il a dit, écoutez, n'en parlez pas, parce que vous êtes étranger, vous risquez l'expulsion, et ça va faire une affaire d'État, donc s'il vous plaît, vous n'en parlez pas.
Voilà, mais enfin, après, bon, je renvoie tout le monde à votre livre, parce que vous racontez l'histoire, c'est un vrai feuilleton. Il va y avoir procès, il va se défendre avec les dents, il va passer devant le tribunal correctionnel de Paris, il est arrêté en Suisse, enfin bon. Et après, il va y avoir une instruction qui va durer 11 ans, donc c'est pour ça que je parlais de feuilleton, et en 1978, il est condamné, je crois, mais à une somme, à une peine ridicule, et un an plus tard, il est libre. Et c'est là où il est interviewé sur RTL. Et je voudrais qu'on écoute quand même ce document qui est exceptionnel. Fernand Legros, dont la justice ne parvient toujours pas à se prononcer sur sa culpabilité, puisqu'il dit que mais comme les tableaux étaient authentifiés, il n'y a pas de raison.
Exactement.
Personne n'a prouvé qu'ils étaient
Exactement.
Faux.
Incroyable.
Et le 17 mai 1979, il est l'invité sur RTL de Jacques Chaput, qui, écoutez bien, c'est pour ça que je parle de documents, avant de l'interviewer, il est là, il est dans le studio, le gros. Mais Jacques Chaput commence par faire, mais face à lui, les yeux dans les yeux, le récit de ses turpitudes.
Un jour, quelqu'un se rend au domicile de Madame Marquet, veuve du paysagiste Albert Marquet. C'est un antiquaire qui lui demande d'authentifier une toile qui s'appelle la plage de Sainte-Adresse. La veuve sursaute, c'est un faux, elle alerte la police, vous étiez le propriétaire du tableau. Quelques jours plus tard, une vente aux enchères a lieu à Pontoise, 4 tableaux de maître sont exposés, ils sont faux, qui les mettent en adjudication, vous, Fernand Legros. Et j'en passe pour arriver à l'essentiel. Mais je tiens à vous dire, monsieur Fernand Legros, si je fais cette énumération, ce n'est pas en tant que procureur, mais pour établir les faits, pour faire comprendre. Alors nous en arrivons, en 1967, à l'affaire Meadows. Un milliardaire texan, un de ces texans qui a plus d'argent, qui ne peut en dépenser, un texan comme les autres, quoi, et qui vous achète 58 toiles pour 2 millions de dollars. Quelle bonne affaire. Hélas, les experts mettent en doute 44 tableaux signés Dufy, Degas, Lamingue, Picasso, Modigliani. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez devant la justice. Vous ne vous sentirez pas mal, mais pas tellement mal. Puisqu'aujourd'hui encore, c'est-à-dire 12 ans après, elle ne sait pas que dire et que faire. Moi, je vous poserai une question, monsieur Fernand Legros. Marchand de tableaux, vous êtes un homme curieux, car si c'est vrai que vous êtes innocent, vous êtes un bien mauvais marchand de tableaux, puisque vous ne savez pas reconnaître le vrai du faux.
Je tiens à vous signaler dès le départ qu'un marchand de tableaux n'est pas un expert. C'est un homme d'affaires. Si vous veniez à vendre des diamants, on ne vous les achètera pas sous votre bonne mine. Il faut évidemment un certificat d'authenticité. Tout objet de valeur se vend parents marchands, habituellement, mais lequel marchand demande l'avis des experts en la matière.
Alors, monsieur Leroux, vous auriez pu être marchand de n'importe quoi.
Ah, mais moi, je suis un très bon homme d'affaires. Si demain, j'ai des diamants à vendre, ou des perles précieuses ou quoi que ce soit, rassurez-vous, je serai le meilleur sur le marché.
Vous êtes un vendeur, quoi.
Néanmoins, je demande les certificats aux gens compétents. Je ne suis pas Madame Soleil, par conséquent, je n'ai pas un don de devin.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas du tout déstabilisé.
Ah non, c'était vraiment un professionnel de l'escroquerie. Et c'est... Mais vous savez que donc son ami Réal Lessard, donc, qui a fait tous les faux, a attendu quand même la mort de Fernand Legros, qui en fait est mort d'ailleurs assez jeune. Il est mort d'un cancer à 52 ans. Et il a publié un livre qui s'appelle « L'amour du faux, la vérité sur l'affaire Legros ». Et en couverture, il y a un Van Dongen qui a été authentifié par Van Dongen lui-même. C'est-à-dire c'est que même les artistes ne reconnaissaient pas leur propre tableau.
Donc, extraordinaire. Donc, si vous voulez en savoir plus, faut aller dans le livre de Karine Muller. On va se retrouver dans un instant avec le reportage de Laure Broulard. On vous emmène à la réouverture du musée Picasso à Paris.
L'heure du crime sur RTL.
Et on vous le disait au début de l'émission avec Karine Muller, il y a des centaines d'œuvres de Picasso qui ont disparu, pas pour tout le monde, rassurez-vous, enfin qu'on retrouve pas, certaines ont été certainement volées, peut-être d'autres égarées, et ça nous a donné tout ça l'idée de demander à Laure Broulard d'aller faire un tour pour nous, pour l'heure du crime, dans le Marais, à Paris, là où vient de rouvrir le musée Picasso, c'était hier, là, l'ouverture officielle au public. Laure était là, et elle était accueilli, et ça c'est quand même pas mal quand on cherche un guide pour une maison comme ça, était accueilli par Olivier Picasso. Vous allez entendre que d'après le petit-fils de Picasso, il est quand même aujourd'hui de plus en plus difficile de voler des peintures.
Et bien ici on est au musée Picasso, dans une des salles des œuvres cubistes de mon grand-père, autrement dit une période très importante qui correspond à la période où il se trouvait au bateau Lavoir, donc au moment où on s'intéresse à lui. Pablo Picasso est un artiste qui fait envie. Donc c'est en effet un des artistes les plus volés, puisqu'on estime qu'aujourd'hui il y a encore 400 œuvres de Picasso non récupérées. Donc c'est incroyable. Alors l'idée c'est que Picasso est connu dans le monde entier. Autrement dit, on peut trouver un débouché ici ou ailleurs. Mais le problème, c'est que l'œuvre est extrêmement répertoriée. Autrement dit, on a des images d'à peu près toute l'œuvre de Picasso, et aujourd'hui, à l'ère d'Internet, une image voyage en quelques secondes au bout du monde. Il y a toujours là le fantasme du collectionneur qui voudrait avoir les demoiselles d'Avignon dans sa cave, mais c'est impossible. Ça n'est qu'un fantasme, et on s'aperçoit bien avec toutes les affaires qui sont résolues qu'on est au milieu de resellers qui essayent entre eux de trouver un gogo qui acceptera de payer un Picasso pour le dixième ou le centième de son prix.
Et vous pensez qu'ici, dans ce musée, les tableaux sont en sécurité ?
Alors, un musée est-il inviolable ? C'est une grande question. Il y a déjà eu un vol ici au musée Picasso, il y a quelques années, dans une vitrine. Et à ce jour, on n'a pas encore retrouvé les dessins qui ont été volés. En revanche, je dois vous apprendre quelque chose. Au musée Picasso, il y a une centaine de peintures installées. Chaque cadre, avec sa vitre, pèse entre 30 et 100 kilos. Autrement dit, on n'est pas dans le cas où quelqu'un va ouvrir un grand sac et faire tomber une toile et son cadre à l'intérieur, parce que je crois que la personne tomberait par terre sous le poids du choc.
Donc ça, c'est une des mesures de sécurité faites exprès ou...
Vous savez, un musée, c'est un ensemble de mesures de sécurité. C'est évidemment les œuvres elles-mêmes, la façon dont elles sont vissées sur un mur. C'est aussi les caméras, ce sont les gardiens, bien évidemment. Et ici, ils sont très vigilants. C'est le vitrage qui est anti-effraction. C'est aussi des mesures de sécurité jusqu'à la sortie du musée. Autrement dit, dans un musée contemporain, comme le musée Picasso qui vient de rouvrir, il est très compliqué de voler un tableau parce que tout est réfléchi à l'intérieur même du projet d'architecture. Voilà, donc j'aurais tendance à dire à un candidat, n'essaye pas.
Et quel est le vol qui vous a, vous, le plus marqué ? C'était celui chez votre sœur ?
Alors, au printemps 2007, il y a eu un vol assez important chez ma sœur, à Paris, dans des conditions assez rocambolesques, puisque le vol a eu lieu sans effraction. En pleine nuit, pendant qu'elle se trouvait elle-même avec son compagnon dans l'appartement. Autrement dit, les voleurs étaient au courant. Ils avaient fait une enquête auparavant, puisqu'ils savaient chez qui ils allaient, avec les possibilités d'ouvrir le portail de l'immeuble, la porte du bâtiment, l'appartement lui-même. L'alarme était en panne, le gardien de l'immeuble était parti en voyage. Donc vous voyez, c'est une petite opération. Ma soeur m'a téléphoné le matin vers 7h. J'ai immédiatement envoyé les images au ministère de l'Intérieur et à la police parce que je savais que c'est la meilleure façon de se protéger dans les heures qui suivaient contre, en quelque sorte, l'exfiltration des œuvres à l'étranger.
Et qu'est-ce qui avait été volé ?
Alors, le vol était important parce qu'on avait volé 3 œuvres vraiment connues. Un portrait de Jacqueline, la dernière femme de mon grand-père, un dessin très important de ma grand-mère, Marie-Thérèse, et surtout une peinture unique qui est le portrait de Maya, ma mère, avec sa poupée et son cheval de bois. Une œuvre absolument connue, iconique. Et puis, 8 mois plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone et on m'a dit « les œuvres ont été retrouvées ». Alors j'étais très inquiet, je pensais que les œuvres avaient été très abîmées, très endommagées. En fin de compte, non. Et ce sont des resellers français, en tout cas c'est comme ça qu'ils se présentent, qui ont été arrêtés dans le 16e arrondissement après que les œuvres aient voyagé, m'a-t-on dit, jusqu'en Hollande. Et c'est là qu'un marchand d'art, probablement indicateur de la police, a trouvé bizarre qu'on lui propose 3 œuvres majeures de Picasso pour un prix dérisoire.
Et vous avez été satisfait du travail de la police? Comment est-ce que ça s'est passé plus précisément pour retrouver l'œuvre?
Il faut savoir que la BRB, la Brigade de répression du banditisme, Paris, qui a été établie en 1975, fait un travail d'enquête extraordinaire. Elle a un réseau, elle a probablement des indicateurs. Et alors qu'on croit que l'affaire a été oubliée, et c'est vrai que moi j'avais le sentiment que malheureusement il n'y avait aucun espoir, elle continuait son enquête, elle continuait ses recherches, ses identifications. Il était très important pour elle d'arrêter les voleurs, ou en tout cas les receleurs, en flagrant délit, ce qui a été fait au mois d'août 2007.
Voilà, c'était Olivier Picasso au micro de Laure Broulard. Je voudrais simplement signaler au passage que Olivier Picasso vient de faire paraître Picasso Portrait Intime, paru chez Albin Michel et en coédition avec Arte. Et il est aussi co-auteur avec le réalisateur Hugues Nancy du film documentaire Picasso, l'inventaire d'une vie, qui sort cette semaine en DVD. Je dis ça pour ceux qui sont des amoureux de Picasso. C'est un film d'ailleurs qui avait été diffusé dimanche dernier sur Arte. Une pause tout de suite et on retrouve Laure Broulard ensuite parce que elle est revenue du musée Picasso avec un petit cadeau pour Karine Muller, une histoire qu'elle ne doit pas connaître.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et l'invité de l'heure du crime, vous le savez si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, c'est Karine Muller. Karine Muller, spécialiste de l'art bien sûr, et puis également galeriste à Paris. On a parlé tout à l'heure de la galerie Guimpel-Muller, donc qui se trouve boulevard Saint-Germain, hein, c'est ça,
12
rue Guénégo, voilà. Faisons qu'est-ce que vous exposez en ce moment d'ailleurs?
Actuellement, nous avons un artiste formidable qui s'appelle Carlos Cruziès, qui est un artiste cinétique. Mmh. Et dont je parle d'ailleurs dans mon livre, parce qu'il y a eu 2 agressions contre ses œuvres d'art, une au Venezuela, ouais, et une dans un, ouais, lycée à La Roche-sur-Yon.
Ouais. De toute façon, les agressions, on a parlé il y a pas longtemps de la place Vendôme.
Oh oui.
Avec ce, alors, je sais pas comment il faut l'appeler, ce sapin de Noël en forme de.
Du pas, coup, tout le monde sait ce que c'est qu'un plug.
Oui, absolument. Voilà.
Moi, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais. Et le pire, c'est que les enfants vont le savoir aussi.
Oui.
Voilà. Alors, ben, les ligues de vertu.
Bientôt, on vendra des tours Eiffel, mais tiens, on parlera des tours Eiffel tout là, et puis des plugs, voilà. Mais verts, hein, surtout. Donc, Karine Muller vient de publier 101 histoires extraordinaires, oui, que j'ai lues vraiment avec délectation. Quand l'art est pris pour cible, c'est le titre du livre qui vient de paraître chez Prisma. Alors, je disais que Laure Broulard avait un petit cadeau pour vous. Ah. Bonjour, Laure.
Bonjour.
Alors, merci, on vient d'entendre votre reportage, votre interview là d'Olivier Picasso. Et quand vous êtes revenu, évidemment, on parle toujours hors micro avec les invités. Qu'est-ce qui vous a raconté que vous m'avez appris et que vous allez apprendre, je pense, à Karine Muller maintenant?
Eh oui, apparemment, c'est une des plus grandes énigmes de toute l'œuvre de Picasso. Donc, Olivier Picasso m'a raconté qu'en 1953, donc à la mort de Staline, Louis Aragon, qui à l'époque dirigeait les Lettres françaises, le journal du Parti communiste, uh-huh, demande à son ami Picasso de faire un geste, un hommage à la mémoire du chef du parti.
Uh-huh.
Donc, Picasso accepte et il va lui dresser le portrait. Mais en fait, il va s'inspirer d'une très vieille photo de jeunesse de Staline.
Uh-huh.
Et il va le dessiner jeune, avec des traits, uh-huh, doux, des traits fins. Uh-huh. Et lorsqu'il le publie dans les Lettres françaises et qu'il offre la toile au Parti communiste, c'est le scandale. Oui. Tout le parti trouve le tableau irrespectueux. Ils auraient voulu qu'on montre Staline en chef de parti, en majesté. Et finalement, c'est le contraire.
Oui, il ressemble un peu, enfin, il a une moustache à la José Bové, on va
oui,
dire.
Oui, un peu tombante.
J'ai vu des reproductions.
Oui, oui, oui. Et donc finalement, le scandale, oui, va rendre le tableau extrêmement célèbre. sabre, il va être reproduit dans tous les journaux à l'époque.
Oui.
Et pourtant, depuis ce moment-là, il a complètement disparu. C'est-à-dire que Olivier m'a dit que le Parti communiste dit ne pas le retrouver dans ses archives actuellement.
Oui.
Et on ne l'a pas retrouvé non plus dans les affaires du peintre
alors,
à sa mort.
Ah voilà. Alors on lance un appel, hein, un appel à témoins.
Qui a le portrait
si vous avez le portrait de Staline fait par Picasso chez vous, peut-être c'est dans, je sais pas, dans les combles, si votre grand-père était au Parti communiste. Enfin bon, vous connaissez pas cette histoire. Enfin.
Alors, je ne savais pas que le tableau avait disparu, mais je connaissais l'histoire parce qu'en fait, j'ai écrit un livre sur un face-à-face entre Aragon et Triolet.
Oui.
Et donc, je raconte justement cette histoire. Donc, mais je l'ignorais complètement que le tableau avait disparu. Oui. Ça, c'est assez incroyable. Mais je vois très bien le visage.
On espère qu'il n'a pas été détruit quand même.
Oui, mais c'est vrai que ça a été un scandale incroyable.
Parce que vous racontez d'ailleurs dans votre livre, j'y pense qu'à cause de ce que vous venez de dire, des agressions artistiques, hein, si j'ose dire, enfin, contre des œuvres d'art, pour des motifs d'idéologie politique.
Il y a les Bouddhas de Bamiyan, par exemple, qui ont été détruits.
C'est,
et ça, c'est une
maximum, c'est des talibans.
Là, pour des motifs religieux. Ouais. Mais c'est l'attentat contre une œuvre d'art qui représente quelque chose de politique ou de religieux, c'est malheureusement une...
Quelque chose qui existe.
Oui, mais qui existe en fait depuis les Égyptiens. Puisque déjà, il y avait une dynastie qui avait détruit toutes les fresques parce qu'elles représentaient des visages.
Voilà. Donc, tous ceux qui les précédaient. Voilà.
Malheureusement, c'est très vieux.
C'est vieux comme le monde.
Oui.
Alors, pour terminer cette émission, je voudrais qu'on prenne au téléphone maintenant un monsieur qui s'appelle Édouard Planche. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour monsieur, bonjour madame.
Merci beaucoup, je vais dire à Karine Muller que Édouard Planche est juriste à l'UNESCO. C'est un spécialiste de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels.
Oui,
je crois que vous êtes en charge depuis 2007 d'un programme très précis, hein, monsieur Planche, pour tenter de retrouver les œuvres. Olivier Picasso a employé le terme d'exfiltration tout à l'heure. Il y a beaucoup de tableaux exfiltrés à travers le monde ?
Il y a beaucoup de... Vous parliez du pillage et de la destruction d'œuvres d'art. Un phénomène qui est vieux comme le monde. C'est vrai que c'est une pratique qui fait partie de l'histoire de l'humanité.
Oui.
Mais je dois reconnaître que depuis 2001, l'affaire des Bouddhas de Bamiyan, il y a une accélération de ce qu'on appelle aujourd'hui ce nettoyage culturel. Et les faits qui se passent actuellement en Irak et en Syrie sont vraiment dramatiques, sont des exemples dramatiques et on est très très mobilisés à ce sujet.
Alors vous travaillez à l'UNESCO, hein, on l'a dit, donc quelle est votre activité dans ce domaine-là?
L'activité principale de mon équipe et de l'UNESCO en vertu de son mandat pour la protection du patrimoine, c'est sur ce domaine précis de protection du patrimoine mobilier de faire de la prévention, c'est-à-dire de faire en sorte que les États qui adhèrent à la convention de l'UNESCO de 1970 mettent en mesure des mesures de prévention des services spécialisés de protection du patrimoine, des polices spécialisées, des douanes spécialisées, des inventaires, un marché de l'art qui soit également suffisamment réglementé. Et puis il y a tout un aspect, je dirais, curatif qui est d'aider les États à obtenir la restitution des biens culturels qui ont été volés et illicitement exportés.
Voilà, bien sûr.
Ouais.
Mais vous savez, ça me fait penser à un chapitre du livre de Karine Muller, parce que vous racontez, alors c'est vieux, il y a prescription, hein, mais il y a eu quand même quelqu'un de très célèbre qui est allé exfiltrer des
Malraux,
des statues,
oui,
mais moi je le défends, Malraux.
À une époque où la réglementation internationale, n'était pas tout à fait au point, mais aujourd'hui, les textes sont là et la mobilisation est générale. Et si vous voulez, nous actuellement, c'est de dire face à ce qui se passe en Irak et en Syrie, où ce sont des civilisations qui sont anciennes et qui sont un peu le berceau pour tous, surtout soyons vigilants, et on en appelle particulièrement au marché de l'art pour leur dire ne faites pas argent de tout et en particulier de ce qui vient de ces pays-là.
Bah écoutez, j'espère que vous serez entendu, enfin vous l'êtes de toute façon, c'est pour ça qu'on avait envie de parler quelques instants avec vous. Je vous remercie beaucoup, Édouard Planche,
merci beaucoup.
L'émission est presque terminée. On a 2 minutes. Hein. Vous voulez pas me parler du gars qui a vendu la Tour Eiffel, quand même, s'il vous plaît. Alors la Tour Eiffel, c'est une œuvre d'art en soi, quand même. Hein.
Exactement. Et c'est une histoire ancienne puisque c'était en 1925. Et il y a un type qui s'appelle Victor Lustig. Alors Lustig en allemand, ça veut dire amusant. Donc déjà
Lustig.
Lustig.
Donc, et bon, il avait de gros problèmes d'argent, donc oui. il se dit que vais-je faire? Je vais vendre la Tour Eiffel. Alors il s'installe au Crillon.
Ah oui, c'est ça, lui aussi.
Grand luxe.
Voilà. Plus c'est gros, plus ça passe.
Exactement. Hein, ouais. Et il convoque les 5 plus gros ferrailleurs de Paris. Ah oui. Et il dit, écoutez, c'est ultra confidentiel. Il faut surtout que personne ne le sache, mais la Tour Eiffel va être en vente parce qu'elle perd tous ses boulons.
Elle est malade.
Elle est malade. Elle risque de s'effondrer. Oui. Donc on va la vendre avant qu'il y ait une catastrophe.
Et il y en a pour 7000 tonnes.
7000 tonnes de ferraille. Alors les ferrailleurs, évidemment, ont les yeux. Et qui, voilà. Et elle dit, faites-moi une proposition. Donc chacun rentre chez lui. Oui. Et puis il y en a un qu'il avait repéré, qui s'appelle Poisson.
Oui, donc, c'est le poisson a mordu à l'hameçon, vous dites.
Ah non, ça n'a pas loupé. Le poisson a mordu à l'hameçon et a commencé à faire une proposition. Mais Madame Poisson s'est quand même dit, non, attends, il faut quand même prendre des garanties.
Il y a un loup.
Alors, il retourne voir donc il retourne au Crillon et le gars se dit, écoutez, je vais être tout à fait franc, vous savez, moi je suis fonctionnaire et je suis très très mal payé.
J'aimerais
donc ce
bien
serait bien qu'il y ait une petite
table.
Enveloppe. Alors là il s'est dit,
ça le rassure. C'est un vrai fonctionnaire.
Un fonctionnaire corrompu, c'est un vrai fonctionnaire.
À l'époque, attention à tous les fonctionnaires qui nous écoutent.
Oui, attention, parce
voilà, il y a prescription, c'est fini, tout ça n'existe plus. Enfin bon, et finalement il a quand même vendu
et
l'autre n'a jamais porté plainte, je crois, parce qu'il a pas osé.
Alors, il s'est ruiné parce qu'en fait, il a donné toutes ses économies et il a été ruiné. Mais voilà, le poisson avait mordu à l'hameçon.
Je vous remercie beaucoup, Karine Muller. On passe vraiment de très bons moments avec vous. Je renvoie tout le monde, tous ceux qui nous ont écoutés, à votre livre. Donc, Quand l'art est pris pour cible, c'est vraiment savoureux. C'est un livre qui vient de sortir chez Prisma.